On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Trier, c'est facile. Le tri des déchets permet de lutter efficacement contre le gaspillage des ressources naturelles, de promouvoir les économies d'énergie et d'épargner l'environnement. Dans cette émission de Carbone Zéro, nous allons découvrir une plateforme de compostage et un centre de tri. Grâce au recyclage, le déchet peut devenir un produit. Monsieur Blaison, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, c'est aux déchets qu'on va s'intéresser. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un déchet ?
Alors, un déchet, effectivement, un déchet n'est pas, par définition, pas un produit. Donc, c'est quelque chose dont on va avoir tendance à vouloir se débarrasser. Et on va le voir, je pense, au fur et à mesure de l'émission, que tout ce qui aujourd'hui fait l'objet de à grands frais, effectivement, de coûts de traitement, peut et doit certainement être valorisé.
Quand on parle de déchets, est-ce qu'on peut les catégoriser en différentes familles ?
Oui. Alors, tout d'abord, la production de déchets en France, en termes de quantité, c'est environ 300 kilos par an et par habitant. Même s'il y a des disparités au niveau national, on peut considérer que c'est la base, en fait, qui doit nous servir en matière de réduction de déchets.
Alors, nous, on va s'intéresser aux déchets. Tu disais le problème des déchets ménagers. Quel est le problème ?
Il y en a trop. le problème, c'est qu'il y en a. Le problème, c'est qu'il y a des matières qu'on considère en fait comme obsolètes, comme méprisables. Il y a toute une... Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le déchet, c'est l'aspect psychologique, c'est le fait que c'est un rebut et c'est l'envers de la médaille, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, comme on ne veut pas le voir, on en a honte, on le cache vite dans des sacs poubelles opaques, de préférence dans des containers, et on cherche à s'en débarrasser de la manière la plus rapide et la plus simple, parce qu'il faut savoir que la gestion des déchets ménagers, moi, je parle des déchets ménagers, et ces déchets aujourd'hui sont traités à 80% en incinération et en mise en décharge. Et seulement 20% sont valorisés, c'est-à-dire qu'il y en a 12% qui sont recyclés, ce qui est assez ridicule, comparé à l'Allemagne, votre voisin. Eux, ils sont à peu près à 50%. Donc nous, on a 12% de recyclage et 8% de compostage. Et pour moi, le compostage, c'est vraiment le... C'est par là qu'il faut commencer. C'est comme ça, je pense qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Parce qu'à peu près un quart de votre poubelle, c'est constitué de ces matières organiques qui ne sont pas des déchets. Enfin, encore une fois, la notion de déchet, elle est complètement relative. Moi, je pense que ça n'existe pas. C'est juste nous, l'homme, à un moment donné, on décide que cette matière n'est plus intéressante. Et donc, le compost, c'est une manière justement d'éviter ce circuit vicieux du déchet, de renvoyer à la terre ce qu'on lui a pris. Souvent, il y a quand même 80%, je crois, des sols mondiaux qui manquent d'humus. Donc, rendre ces matières à la terre, c'est une manière d'empêcher cet appauvrissement de continuer. Et à partir du moment où vous avez enlevé ces matières-là, qui sont à peu près, c'est 80-90% d'eau. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à les mettre dans un incinérateur et à les brûler. Ça ne produira pas d'énergie. Au contraire, ça en consommera. À partir du moment où vous les enlevez de votre poubelle, c'est plus sale, il n'y a plus de jus, tout ça. Et du coup, les cartons, toutes les matières recyclées, elles sont pas tachées. Donc voilà, pour moi, il faut déjà commencer par la fraction fermentescible et puis ensuite voir pour une réutilisation. Il y a le concept des ressourceries, il y a énormément de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis la première chose, mais là on n'a pas trop de marge de manœuvre, c'est vraiment au niveau des industriels, c'est qu'ils arrêtent de fabriquer des produits générateurs de déchets.
Donc on a les ordures ménagères résiduelles, c'est par définition tout ce qui pourra pas être valorisé, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas faire l'objet de revalorisation ou de retraitement. Ensuite, on a la fraction valorisable, le tri sélectif, la partie papier, carton, verre, acier, aluminium, qui, elle, par contre, peut faire l'objet non plus d'un traitement en tant que déchet, mais d'une revalorisation matière. Et enfin, et c'est le cas sur le département du Haut-Rhin, la partie fermentescible ou la partie organique des déchets, qui peut faire l'objet d'une revalorisation sous forme de compost agricole.
Alors devant nous, on a un tas de compost qu'on appelle du compost brut. Donc c'est du compost qui est issu des biodéchets, donc qui sont collectés séparativement. Il y a deux types de compost sur la plateforme. Donc il y a ce fameux compost brut qui est un peu plus grossier, qui est essentiellement utilisé pour les particuliers dans les jardins ou dans les champs pour les agriculteurs. Et il y a un deuxième type de compost qui est un compost surfin.
Et si on met ça dans son jardin, ça va apporter quoi?
Bah ça va remplacer tout ce qui peut être engrais ou fumier que les particuliers mettent dans leur jardin. Donc ça va emmener des minéraux, ça va remplacer les engrais et ça va emmener en même temps un peu de structurant.
Est-ce qu'on trouve des vers de terre là-dedans si on fouille un peu?
Ah non, dans le compost directement vous trouvez pas de vers de terre. Mais par contre ça va apporter des bonnes choses pour apporter les vers de terre dans le jardin.
Alors à partir du moment où le camion collecte les déchets chez les particuliers, et le tas que j'ai là devant moi, combien de temps s'est passé?
3 semaines, je sais plus, ouais. Il va se passer 3 semaines entre le moment où les biodéchets arrivent ici et où le compost est fini.
Donc on l'a vu, on produit en moyenne 300 kilos de déchets par an. Quelle est proportionnellement la part de chacune des familles dans sa poubelle?
Alors là encore, il y a des disparités au niveau national. L'Alsace est un modèle en matière de revalorisation des déchets pour la partie collecte sélective, puisqu'on a hors vert un tonnage qui est d'environ entre 70 et 80 kilos par an et par habitant. Pour la partie fraction fermentescible, on a sensiblement le même tonnage. Donc la partie, en fait, et c'est tout l'intérêt du dossier, c'est que la partie qui reste, si vous faites 2 fois 80 et que vous les retranchez à 300, il doit rester à peu près 140, qui aujourd'hui est pour nous, constitue en fait le seuil qui constitue en fait les ordures ménagères résiduelles et qui ne peuvent pas aujourd'hui faire l'objet d'une valorisation quelconque. En fait, si toutes les collectivités se mettaient dans le tri et la collecte de la fraction fermentescible, on devrait avoir 140 kilos par an et par habitant au niveau national au lieu de 300.
Ok, donc tout ce qui est fermentescible, c'est quand on parle de déchets alimentaires, de compost, d'épluchures
C'est tout ce qui aujourd'hui, effectivement, bien souvent est mélangé à la partir des ordures ménagères résiduelles. C'est tout ce qui est épluchures, restes de repas, les coquilles d'huîtres, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui peut être valorisé d'un point de vue organique.
Cet engin-là, ce qui surplombe l'ensemble mécanisé, il y a des vis, les vis qu'on voit à l'horizontale qui se baissent, qui vont dans le produit. Et avec un mouvement alternatif de va-et-vient, ça remue le produit et ça le fait avancer ici.
Et donc là, ce produit-là, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on retrouve?
C'est du biodéchet et du bois broyé.
Et tout ça vient des familles, des foyers?
Ça vient des foyers et des déchetteries pour le bois.
Okay, donc premier stade, tout arrive ici et tout est broyé et retourné par cette machine et ce rouleau-là.
Voilà, donc c'est retourné tous les jours. Il y a de l'air, de l'oxygène qui est insufflé par le dessous. Et on arrive en 3 semaines à faire comme ça un compost qui est transformé. Les bactéries fonctionnent avec de l'oxygène et ça fonctionne. Ça chauffe en température jusqu'à 60-70 degrés. Et la transformation se fait. Au bout de 3 semaines, le produit est déposé sur le tapis roulant qui sort l'ensemble.
Donc là, il y a de la vie là-dedans. Il y a du ver, des insectes, des animaux qui sont en train de biodéguer.
Non, il n'y a pas. Ce sont que des bactéries.
Que des bactéries.
Ouais, pas d'animaux, que des bactéries.
Combien de kilos entrent ici tous les jours?
Ici, c'est entre 50 et 100 tonnes à peu près.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes?
Je suis Philippe Meinrad et je m'occupe de la plateforme de compostage sur Berkheim. Donc nous, on composte plus spécifiquement des bouts de stations d'épuration avec des déchets végétaux et également des biodéchets de restauration qu'on collecte dans les restaurants, les cantines scolaires.
Donc vous ne compostez pas non plus tout ce qui est déchets domestiques, ce qu'on jette dans sa poubelle en faisant la cuisine?
Si, mais à condition que ce soit trié au préalable. Donc quand je parle de biodéchets de restauration, c'est tous les déchets qui sont issus des préparations de repas et des retours d'assiettes.
Est-ce que la politique de collecte des déchets est la même à Berkheim ou à Sainte-Croix ou à Colmar?
Non, puisque ça part souvent des initiatives, c'est souvent à l'initiative de collectivités locales, mais nous, on est également là pour proposer des solutions, des idées nouvelles, sachant qu'on a des outils qui sont adaptés dans la logique de développement durable pour un retour à la terre de la matière organique. Ben, pour nous, le développement durable, c'est déjà, dans un premier temps, le développement de son territoire. Ça veut dire être capable d'imaginer des solutions nouvelles pour trouver des solutions qui permettent de retraiter les déchets organiques qui sont produits autour de nous pour pouvoir pouvoir les transformer sous forme de compost, bientôt sous forme de digesta avec notre nouveau projet de méthanisation, pour permettre un retour à la terre de la matière organique.
C'est quoi ça, ce projet de digesta?
Alors le digesta, c'est le résidu final de la méthanisation. Et la méthanisation, en fait, c'est un procédé qui est totalement biologique, mais c'est en fait l'inverse du compostage, puisque c'est un procédé qui se fait en conditions closes, c'est-à-dire en absence d'oxygène. En fait, on va construire des gros estomacs en béton qui vont digérer la matière organique, qui vont transformer cette matière organique en biogaz. Et ce biogaz, qui est plus ou moins riche en méthane, va être consommé par un moteur qui est conçu pour fonctionner au biogaz. Ce moteur va entraîner une alternatrice qui produira du courant. Donc l'électricité sera réinjectée dans le réseau EDF. Et le circuit de refroidissement du moteur, qui se fait avec de l'eau, donc on va produire de l'eau chaude. Cette eau chaude sera réutilisée sur le site pour maintenir nos gros estomacs en température.
Okay. Et le végétal qui est donc dégradé pour faire du méthane, qu'est-ce qu'il devient, ce végétal-là?
Le résidu final de la méthanisation, donc ça s'appelle du digesta. Une fois que la matière organique est digérée, on a un résidu qui s'appelle du digesta, qui est en fait de la matière organique sous forme liquide qu'on va réutiliser dans nos champs. En tant que fertilisant, donc dans nos champs, les champs des voisins.
Et c'est organique, complètement organique?
Complètement organique, 100% naturel.
En termes de fertilisation, est-ce que le compost a un rendement plus important que le digesta?
C'est un petit peu, c'est différent. Le digesta va avoir un effet beaucoup plus fertilisant et le compost a beaucoup plus d'effet au niveau de la matière organique et de l'humus du sol. Donc on peut dire que le compost est un amendement qui va enrichir les sols en humus et en matière organique, et on peut dire que le digesta aura plus un effet fertilisant.
J'aimerais maintenant qu'on comprenne un petit peu le trajet de son déchet. Donc une fois qu'on a la benne qui passe devant sa porte pour ramasser son bac, où va aller ce déchet?
Sur les ordures ménagères résiduelles, aujourd'hui il y a majoritairement trois possibilités de traitement. La première, c'est l'enfouissement. Donc c'est notamment dans le Rhin, on a un site d'enfouissement qui est du côté de Retzwiller. Donc ça a été traditionnellement un des traitements privilégiés. Le second, ça sera l'incinération, c'est-à-dire qu'on va pouvoir incinérer les déchets. C'est le cas notamment avec les incinérateurs de Colmar et de Mulhouse. Et puis le troisième procédé, ça sera un procédé de compostage. Depuis le 1er janvier et sous l'impulsion du Conseil général, l'usine de compostage n'est plus aujourd'hui destinée que à la fraction fermentescible. L'idée, c'est qu'on va, dans les 3-4 prochaines années, composter entre 9 et 15 000 tonnes de biodéchets et on aura zéro refus.
Ici, c'est l'affinage. Il y a une chargeuse qui vient prendre le produit qui est sorti de la fermentation, qui le fait passer dans un trommel. Donc c'est une grille avec des trous, 14 mm, qui tourne. La partie fine, c'est le compost fini. Et la partie grossière, c'est essentiellement le bois qui n'a pas été décomposé, plus quelques refus genre plastique. Et le bois, lui, est réintroduit en mélange avec les biodéchets dans la fermentation. Ce qu'on vient de visiter, une fois que ça sort de ce hall de fermentation, on le passe ici pour recribler, pour retirer la matière qui est la plus fine, qui est le compost terminé, de la matière qui est grossière, qui comporte un des refus, qui est du plastique, et deux, du bois qui a été broyé, mais qui est encore pas totalement décomposé.
Ok, on va essayer de s'imaginer. Donc là, on est devant un tas de terre, qui ressemble à un tas de terre, qui est brun ou noir, qui est uniforme. Mais maintenant, si on essaie de s'imaginer de quoi est composée cette terre, donc de biodéchets, on l'a vu, qui produisent des ménages, mais qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Des épluchures, des coquilles d'œufs, ou on va essayer de faire un peu le panel de ce qu'on peut retrouver dans ce tas-là.
Alors dans ça là on trouve du compost, mais effectivement à la base il y a ce qu'on appelle les biodéchets. Ça va être effectivement les coquilles d'œufs, les épluchures, les fruits et légumes abîmés, les restes de viande, les os, les arêtes de poisson, les coquillages, les crustacés, des bouquets de fleurs fanées, les marcs de café avec le filtre, les sachets de tisane, les papiers d'essuie-tout, les mouchons en papier, ou par exemple pour ceux qui commandent des pizzas et qui se font livrer avec des boîtes pleines de jus, ça c'est quelque chose qui ne peut pas aller au tri sélectif, donc ils peuvent être mis au biodéchet. Donc vous avez toute cette panel là de choses qui sont dans les biodéchets.
Alors la quantité de déchets n'a eu de cesse d'augmenter, et c'est d'ailleurs ce qui a alimenté toutes les réflexions sur le Grenelle de l'environnement, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Quand je parle de 300 kilos par an et par habitant, c'est la production de déchets hors déchetterie. On peut facilement doubler ce chiffre si on intègre uniquement pour les usagers domestiques, parce que si on commence à rentrer dans la problématique industrielle, on sera encore dans d'autres considérations. Mais c'est effectivement ce chiffre-là, entre la collecte et les déchetteries, n'a eu de cesse d'augmenter. Et à un moment donné, le législateur a dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Donc il a mis en place un certain nombre de systèmes. On a parlé effectivement de la collecte sélective, on parle aujourd'hui de la collecte des biodéchets et on parle de redevance incitative. Tous ces systèmes-là, ou plutôt la redevance incitative alliée à ces collectes sélectives, de biodéchets aux collectes sélectives, va normalement avoir tendance à faire chuter la production de déchets chez le Français.
Donc ce compost est valorisable derrière, hein. On peut l'utiliser pour l'agriculture ou peut-être d'autres choses.
Il est valorisable par des agriculteurs. Il est aussi à disposition des particuliers qui souhaitent l'utiliser.
Est-ce qu'on va réussir à valoriser tout le biodéchet produit ?
Alors oui, effectivement, pour l'instant, on arrive très facilement à trouver des acquéreurs pour le compost, que ce soit des particuliers, des collectivités ou des agriculteurs.
Donc il est valorisable par des agriculteurs. Il est aussi à disposition des particuliers qui souhaitent l'utiliser.
Tout ce qui est incinéré est perdu, tout ce qui est enfoui aussi. Et quand on parle de valorisation des déchets, donc
alors là on en parlait, on est à la valorisation, on va dire organique ou en tout cas agricole de la fraction organique des déchets. Et après on a une autre valorisation, c'est la valorisation matière sur la collecte sélective.
Donc c'est seulement sur la collecte sélective qu'on peut valoriser son déchet. Donc la poubelle plastique qu'on va mettre dans son bac d'ordures ménagères ne sera pas valorisé.
Non.
Alors qu'on peut valoriser ce produit si on fait le choix volontaire d'aller le poser dans une benne.
Bah c'est toute l'idée qu'on développe depuis tout à l'heure. En fait, c'est de mettre les bonnes choses, j'allais dire, aux bons endroits. Si on met tout dans un conteneur en OMR, aussi bien la fraction fermentescible des déchets que la collecte sélective, tout ira au même endroit. Donc tout ira en incinération, tout ira en enfouissement. L'idée, c'est effectivement de séparer les collectes de manière à pouvoir valoriser, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 50% du gisement. Donc pour la fraction fermentescible, on en a parlé. Pour la collecte sélective, on a des matériaux, polyéthylène, papier, carton, verre, qui peuvent avoir une deuxième vie. Et pour les métaux notamment, la tonne de métaux, c'est pas anodin non plus en matière de revalorisation, parce qu'une tonne de métaux, alors c'est très fluctuant et très variable. 2009 n'a pas été une bonne année en matière de valorisation, mais une tonne de métal peut se négocier aux alentours de 300 euros. Donc c'est bien la problématique de départ. On parle d'un déchet qui finalement se transforme en produit.
Donc c'est plus un déchet. Le mot déchet n'est plus approprié finalement pour quelque chose qu'on peut valoriser derrière.
Exactement. Donc l'idée qu'on développe depuis tout à l'heure, c'est que sur la production de 300 kilos, on peut avoir 150 kilos de déchets et 150 kilos de produits. C'est un peu tout l'enjeu du Grenelle de l'environnement et puis de la prise en compte de ces dispositions-là par les collectivités.
Chez les usagers, le DIB, c'est plutôt des déchets d'industriels.
Ok.
Qui, on va le voir, sont récupérés et valorisés pour une partie. On commence par les détroiseurs. Vas-y. Hein.
Alors, on commence par les...
Moi, les détroiseurs, c'est pas moi qui s'en occupe en temps normal. Hein.
Enfin, rapidement.
Tout ce qui est détroiseur, tout ce que vous voyez ici actuellement en visuel, c'est tous les ramassages qu'on fait nous dans les déchetteries. C'est les particuliers qui ramènent dans les déchetteries.
Donc les D3E, c'est les déchets d'origine électrique, électronique. Il y a plusieurs catégories. Ici, vous avez le froid. On va aller voir tout de suite. On a une chaîne de démantèlement des écrans de télé.
Les DD3E, les quoi?
Les D3E.
Les D3E.
Les équipements électroniques et électriques.
Ok. D3E. Et c'est démonté manuellement les écrans un par un?
Wow. pas où il y a une chaîne de travail.
D'accord.
Ils ne travaillent pas parce que je crois qu'ils ont terminé là. Ouais. En fait, ils démontent les écrans de télé et ils séparent en fait la partie coque en plastique des parties composants électroniques en vue de leur revalorisation derrière. Et on travaille avec une entreprise d'insertion. Et on travaille en partenariat avec cette entreprise depuis maintenant quelques années.
Okay, donc là, on sépare le plastique et les composantes, hein, c'est ça? Et tout ce qui est écran, le verre, l'écran lui-même, la partie vitre.
Ça repart sur des filières d'élimination dont je ne pourrais pas les donner cet après-midi. Enfin, on peut se renseigner, mais je les connais pas par cœur. Quoi.
D'accord. Ok.
Les écrans, ils repartent en Allemagne?
Je sais pas. La partie verre, quoi.
Ouais, je sais pas, j'ai touché.
Il n'y a pas le verre, en fait, c'est l'écran en entier. Hein. Le verre n'est pas séparé.
C'est le tube cathodique, en fait.
C'est le tube cathodique. Voilà, donc la partie composant électronique qui, encore une fois, est triée en vue d'une revalorisation. Alors, comment et où c'est revalorisé
Ouais, ça, on n'en sait rien. Quoi. Okay.
Ben, c'est pas qu'on sait rien, c'est qu'en plus, c'est très fluctuant. Ça peut changer, comme d'ailleurs toutes les filières d'élimination, ça peut changer assez rapidement. Quoi.
Parce que moi, je sais que dans la connaissance, les seuls produits suivants en Allemagne, c'est les frigidaires. Les frigos, parce qu'on n'est pas équipé actuellement en France, une usine spécifique pour retirer tout ce qui est fréon et ainsi de suite. C'est les seuls produits actuellement qui perdent en Allemagne. Mais sinon, tous les autres produits restent en France. Oui, voilà. C'est des organismes spécifiques qui arrivent à démanteler tout ce qui est composants et ainsi de suite.
Okay. Donc là, c'est une première étape de séparation, mais ça reste relativement grossi. Donc ça, c'était pour la partie D3E. Là, on est sur la partie collecte sélective. Donc collecte sélective, aujourd'hui, toutes les collectivités qu'on collecte sont collectées en multimatériaux. C'est-à-dire qu'en mélange, dans un sac ici que vous voyez identifié de couleur jaune, on va mélanger les corps plats. Donc les corps plats, c'est tout ce qui est fibreux, donc les cartons, les journaux, le papier et les corps creux. Donc tout ce qui est corps creux, c'est bouteilles, emballages, flaconnages en plastique. Et ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est justement l'unité qui nous permet de trier ces différents produits.
Est-ce qu'il y a des bennes d'apport volontaire aussi ici sur les communes?
Alors ici, on ne traite pas de points d'apport volontaire, on ne traite que la collecte sélective en porte-à-porte.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Ici, on est dans le domaine de l'ouvreur de sacs. Hein. C'est une machine qui nous permet de nous ouvrir, on va dire, 95% des sacs. Qui ensuite passe sur une bande, comme vous pouvez voir là actuellement. Hein. Ensuite, ça renvoie dans une autre cabine. Et la cabine qui est actuellement, on appelle ça la cabine de pré-tri. Alors le rôle des personnes qui sont là, c'est qu'ils vont récupérer un côté les sacs des collectivités, tous les sacs des collectivités, hein, plus un côté carton, cartonnette, et ainsi de suite le déchet.
Donc là, la machine ouvre les sacs, et sur la chaîne de tri, on récupère juste les sacs plastiques jaunes.
Qui sont qui sont réexpédiés chez le fournisseur en vue d'un reconditionnement en sac de tri.
Le but, comme je vous ai expliqué en amont, c'est qu'on a l'ouvreur de sac. De l'ouvreur de sac, si ça passe dans la cabine de pré-tri, eux, ils font un gros nettoyage. Mais quand je parle de nettoyage, c'est de la récupération. Hein. Les sacs des collectivités qui sont recyclés, cartons, cartonnettes sont recyclés. À part les déchets, bien sûr. Les déchets, il y a une filière qui soit incinérée ou soit s'enfuit. Ensuite, le produit est cheminé sur une autre machine qu'on appelle ça un cribalistique, qui lui nous permet de séparer tout ce qui est plat d'un côté et qu'est-ce qui creuse de l'autre. C'est là qu'on va voir les deux autres cabines. Alors vous voyez la différence qu'il y a actuellement entre la cabine de pré-tri et la cabine des corps creux et la cabine des corps plats.
Donc la cabine de pré-tri où on était juste maintenant, et ça c'est les corps creux alors ici.
Ici en visuel, on a la cabine des corps creux.
Ah donc corps creux, c'est ce qu'on appelle les bouteilles en plastique.
Voilà, flaconnage, bouteilles en plastique.
Flaconnage de verre aussi? Non, là on a que du plastique là.
Non, c'est que du plastique, nous on ne recycle pas le verre. Ensuite, okay. Ensuite derrière, on a la deuxième cabine que là, on appelle ça la cabine des corps plats. C'est tout ce qui est carton et cartonnette. Qui est séparé en amont par le grip balistique.
Pour le plastique, donc on voit les bouchons, c'est le même type de plastique que le reste du contenant.
Alors voilà, en termes de plastique, il y a, on va dire, deux sortes de plastique, il y a le PET et le PEHG, qui est deux matières différentes. Par contre, le plastique, c'est du PP. Alors, il fut un moment que les particuliers retiraient le bouchon, mais actuellement, on peut laisser dessus pour la simple raison, c'est que plus qu'on avance dans les années, plus qu'on se modernise, ici, ceux qui recyclent les bouteilles, ils y arrivent par flottaison à séparer la matière du plastique et la bouteille elle-même.
Et nous, en tant que particulier, quand on est chez soi et qu'on fait le tri, qu'est-ce qu'on en fait du bouchon?
Le bouchon, vous pouvez laisser sur la bouteille.
On peut laisser sur la bouteille aujourd'hui?
Sur la bouteille, oui.
c'est que c'est une séparation mécanique. En fait, les corps creux redescendent et les corps plats vont monter. Et c'est un système de pales, comme ça, en fait, qui fait un mouvement et qui sépare les deux produits, mais vous le verrez mieux d'en haut.
Donc là, on va voir ce qui sépare les corps creux des corps plats.
Et si vous avez les briques alimentaires, c'est le tétra, le briques de lait, jus de fruits, ainsi de suite. Ici, vous avez les EMR. Alors, les EMR, c'est des emballages ménagers recyclables. C'est tout ce qui vient de chez nous, les particuliers. Hein. Et ici, vous avez le déchet.
Donc, on est au centre de tri de déchets, où sont apportés les déchets ménagers. Et ils sont triés pour ensuite suivre différentes filières de récupération, de recyclage.
Quel type de déchets donc, arrivent ici?
Donc, tout ce qui est issu de la collecte sélective. On a les corps creux, les corps plats, qui vont être triés dans deux cabines différentes. Donc on a d'un côté les corps creux qui sont toutes les bouteilles plastiques, bouteilles de lait, bouteilles d'eau, etc. Et les corps plats qui sont tout ce qui est papier, carton, journaux, magazines. Et les deux sont donc triés pour ensuite partir dans différentes filières de recyclage.
Donc juste à côté il y a une déchetterie, hein. On voit les particuliers qui viennent vider dans les bennes tous leurs déchets, donc plastique, verre, végétal, carton. Et où vont partir ces déchets? Ils sont traités directement ici sur ce site?
Alors pour ce qui est du carton, il sera traité chez nous. Les encombrants seront acheminés vers le quai de transfert qui nous appartient également, puis ensuite seront emmenés à Retzwiller, au centre d'enfouissement. Tout ce qui est gravats, bois, va être emmené chez Triter, une petite entreprise juste à côté, qui, eux, sont spécialisés dans le traitement de ces déchets-là.
Et tout ce qui est déchets végétales et organiques?
Pareil, chez Triter. Hein.
Et là, il y a les déchets organiques qui arrivent ici?
Ils sont emmenés directement à l'usine de compostage.
Vous habitez où?
Uffels.
C'est où?
C'est juste à côté de Cernay. C'est...
Alors, comment se passe le tri à Uffels?
Donc c'est la collecte sélective en porte-à-porte. On a un sac unique où on va mélanger tout ce qui est bouteilles plastiques, cartons, etc. Et on a une... C'est collecté en porte-à-porte une fois toutes les deux semaines.
Donc la bouteille de plastique et le morceau de carton qu'on met chez soi dans la poubelle, jaune, va arriver ici?
Tout à fait, va arriver ici, va être trié et ensuite va être acheminé vers un centre de traitement pour une deuxième vie.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vont être valorisés tout ce qui arrive ici, le plastique, que va-t-il devenir? Donc on a vu, il est revendu à un autre client, pareil pour le carton, mais quel est l'avenir finalement de tous ces produits?
Le carton va être acheminé vers des papeteries pour redevenir du carton, et le plastique va être traité dans une usine spéciale et va devenir par exemple les moquettes de voitures ou des polaires. Ils vont comme ça retrouver une seconde vie.
Donc on peut même plus parler de déchets derrière, il y a une réincarnation du produit.
Voilà, le déchet va redevenir la matière première qui créera un nouveau produit.
Donc un déchet qui a un mauvais karma, en quoi va-t-il se réincarner?
C'est que vous avez dit pas de questions pièges.
Donc faites-nous rêver, donnez-nous un petit peu des exemples de ce que peut devenir nos bouteilles plastiques ou nos canettes en verre.
Alors le verre a cette particularité, c'est qu'il est réutilisable à l'infini. C'est-à-dire que le verre redonnera du verre autant de fois qu'on aura envie de refaire du verre avec le verre. Après, pour les matériaux polyéthylène notamment, on peut générer des textiles plutôt type polaire. Et pour le papier carton, il peut être recyclé, réutilisé, plusieurs fois.
On inspire. On expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro,
une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent pas rond.
Pour plus d'infos sur les déchets et le recyclage, www.notre-planète.info.